Et bonjour les amis, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game, les amis. J'espère que vous allez bien. Je vais abandonner cette voix immédiatement pour que ce soit agréable à écouter. La semaine dernière, pas de podcast puisque j'avais fait un... J'ai fait un voyage à Paris, je suis parti à Paris et il y avait un live Patreon la veille de la sortie du podcast. Donc en général, j'évite de multiplier les productions pour garder de la fraîcheur dans ce que je fais et de l'inspiration. Puisque vous savez que tout ce que je fais c'est de l'impro, hein, moi j'ai jamais rien de préparé. C'est de l'impro, donc voilà, pour garder de la fraîcheur, il faut pas multiplier non plus. C'est pas infini l'inspiration, donc faut pas multiplier les supports. C'est pour ça que le week-end dernier... vous n'avez pas eu de Burger Ring. Ce week-end, vous êtes des petits chanceux parce que vous allez avoir un Burger Ring et vous allez avoir un épisode de Raptor X Papacito sur la chaîne du Raptor. Donc c'est cette longue émission fleuve où on se régale avec mon éternel complice, le Raptor. On vous parle un petit peu des news et des sujets du moment. Donc voilà, émission à ne pas rater. Je sais que tous ceux qui écoutent le podcast connaissent cette émission. Mais bon, si jamais vous êtes un nouvel auditeur, parce qu'il y en a chaque semaine, sachez qu'il y a du contenu avec mon ami le Raptor sur sa chaîne. Ne ratez pas ça, on se régale. Et on a fait un épisode particulièrement intéressant. On l'a enregistré en début de semaine. Et donc là, vous allez l'avoir ce dimanche 23, pour ceux qui vont l'écouter le dimanche. Et sinon, pour ceux qui l'écoutent plus tard. Voilà, vous avez et un épisode de Burger Ring et un épisode de Raptor X Papacito. Les amis, je me rends compte qu'au fur et à mesure, au fil de ma carrière, je n'ai peut-être pas assez tapé sur les communistes. Ça peut paraître étonnant, mais je me dis que je n'ai pas été encore assez virulent. Il a poignardé un mannequin, voilà, faut le savoir. Hein, voilà. Non, mais c'est vrai, parce que là, récemment, en fait, je crois qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur de ce cancer idéologique. Putain, mais... Alors, attention, j'ai beaucoup de respect et même, voire d'affection pour les communistes à l'ancienne, qui étaient des gens, d'accord, qui avaient une vision de la gauche comme étant une gauche, en fait, qui n'était pas une gauche sociétale, donc qui n'était pas une gauche qui s'intéressait aux problèmes de genre et je sais pas quoi, mais qui était une gauche sociale, c'est-à-dire une gauche qui n'avait de cesse, sur le papier en tout cas, de s'enquérir du sort des ouvriers. Et les ouvriers sont un des moteurs économiques de notre pays. Je l'ai moi-même été de longues années. Et je sais à quel point ce sont des métiers, certaines fois, extrêmement difficiles. Et je comprends qu'on ait le sentiment d'être exploité, d'être important. Et donc, on a envie d'être représenté politiquement et que notre parole compte. Donc, moi, évidemment, ma famille est truffée de communistes avec plus ou moins de légitimité. Hein, voilà, puisque... mes grands-parents avaient la légitimité d'être de gauche. Mes parents, bon, sont des 68ards. Mon frère, j'ai un peu plus de mal. Donc, si vous voulez, voilà, on va parler des nouveaux communistes. Bon, parce que de toute façon, c'est une idéologie de merde. Mais on va dire que avant, les gens n'avaient peut-être pas le recul. Déjà, ils n'avaient pas le recul historique. Ils pouvaient pas savoir à quel point ça générerait de la merde. Et puis surtout, ils étaient dans des situations, sociales qui étaient catastrophiques. Donc, je comprends qu'à un moment, il y a eu envie de transcender tout ça. Malheureusement, le communisme n'était pas la solution. Et aujourd'hui, en 2025, là, pour le coup, c'est impardonnable d'être communiste parce que on voit ce que ça a donné dans le reste du monde. Il y a des pays, hein, qui sont des exemples de stricte application du communisme. Et évidemment, ce sont des shitholes. Ce sont des shitholes infinis, des trous à merde spectaculaires. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Voilà. Avant, on était dispensé d'être au courant, si vous voulez, quand on était un simple ouvrier français, italien, espagnol, ce que vous voulez, anglais, américain. On n'était pas obligé de savoir. On pouvait imaginer qu'il y avait de la propagande capitaliste contre le communisme. Aujourd'hui, il y a un travail monumental qui a été fait. On a les chiffres, on a les exemples, on peut aller visiter certains pays communistes, pas tous, on peut aller voir ce que ça a donné, et évidemment, c'est une sombre catastrophe à chaque fois. Donc, le communisme 2025, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et récemment, je m'interrogeais sur à quel point, aujourd'hui, adhérer à ça, c'est être en état de maladie mentale infinie, en fait. Tout simplement parce que je suis récemment retombé sur une interview de Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, vous connaissez ce personnage? Hein, Jean-Michel Apathy, il fait des interventions à la télé. Putain. Jean-Michel Apathy, par communisme congénital, a affirmé qu'il fallait, je cite, raser Versailles. Mais... Pinochet ! Réveillez Pinochet, vite ! Vite ! Putain, mais... Raser Versailles ? Mais raser Versailles... Alors en plus, moi, je suis pas un monarchiste. Moi, je suis un royaliste. La différence, si vous voulez, c'est que la monarchie, c'est le royalisme jacobin presque, dans le sens où la monarchie centralise énormément le pouvoir, beaucoup plus qu'avec un roi. Un monarque, il prend la noblesse et la noblesse régionale, il la fait monter à Paris. Et en fait, c'est du proto-jacobinisme. On est déjà dans la fin des régions. Alors que le roi, il a un pouvoir qui lui est donné par Dieu, bon, comme le monarque, hein, mais il est tout le temps dans un équilibre entre représenter l'ensemble des régions, les maintenir sous contrôle et leur laisser quand même une forme de marge de manœuvre qui permet au royaume de France de continuer à être la France. C'est-à-dire que quand vous aviez un comte de Toulouse à Toulouse, quand vous aviez quand vous aviez la maison de Savoie, la maison de Bourgogne, les Bretons dans leur coin qui continuaient à être des Bretons, qui continuaient à être des Normands, qui continuaient à être des Franc-Comtois, qui continuaient à être des Flamands, des tout ce que vous voulez. Bon, eh ben en fait, on était dans une France qui était une France des régions. C'était la France, mais c'était la France des régions. Il n'y avait pas encore eu ce lissage républicain dont je vous parle régulièrement, qui consiste en fait à anéantir les cultures locales, à anéantir les spécificités locales, à anéantir en fait les éléments qui pourraient rattacher les sujets ou les citoyens, dans le cas de la République, à leur localité, et en faire des gens qui pourraient être transposés d'une région à l'autre au sein du territoire national républicain. C'est-à-dire que le rêve absolu de la République, c'est que, par exemple, les Occitans arrêtent de parler Occitan, que les Bretons arrêtent de parler Breton, et qu'on les prenne et qu'on puisse les intervertir. Voilà, que les Bretons puissent être à Toulouse et que les Toulousains puissent être en Bretagne de manière massive, sans qu'ils ne sentent de différence. Voilà. Or, moi et tous ceux qui sont royalistes et tous ceux qui sont anti-jacobinistes. Donc, le jacobinisme, c'est un mouvement qui vise à centraliser l'État et à donner tout le pouvoir à l'État central. Vous vous retrouvez à la fin dans un pays comme le nôtre, hein, la République française, même si c'est un pléonasme. C'est pas un pléonasme, pardon, c'est une oxymore, hein, République et française. Vous vous retrouvez avec un pays où tout est centralisé à Paris et les Parisiens, qui sont complètement détachés du reste de la France, commencent à prendre des décisions pour le reste des Français. Voilà, sans connaître leur réalité, leurs aspirations, leur culture. Voilà, tout ça ne compte plus et in fine, on est dans un truc où tout le monde, on fait une espèce de soupe républicaine où tout le monde devient une espèce d'individu sans âme, sans passé, sans religion, sans tradition locale, juste tout apte à payer l'impôt. Voilà, ça c'est le rêve républicain. Vous voyez, bon. Et la monarchie avait un petit peu initié ça, et notamment sous Louis XIV, en prenant toute la noblesse locale, en les faisant monter donc à Versailles, et en constituant ce qu'on appelle une cour où l'appareil décisionnaire régional qui tout d'un coup était convoqué à Paris pour faire des bals, des partouzes et que sais-je à Versailles. Et d'ailleurs, la Révolution française, il faut être honnête là-dessus, hein, la Révolution française n'est pas arrivée par hasard. C'est un complot bourgeois qui s'est servi d'une certaine et qui a alimenté une certaine colère populaire légitime pour dégager cette noblesse décadente qui avait à Paris et qui n'était plus la noblesse qu'on avait connue tout au long du Moyen Âge. Il faut savoir que le système royaliste a connu 1000 ans de même un peu plus de 1000 ans, de fonctionnement et a été le système qui a tenu le plus longtemps. Plus que le système républicain, plus que le système anarchiste, plus que le système tribal, n'importe quel système, rien ne dépasse le royalisme. Le royalisme a été historiquement, alors on n'inclut pas la chefferie de la préhistoire, puisque du coup c'est de la préhistoire, mais historiquement, le royalisme a été le régime qui a duré le plus longtemps. Et le royalisme, qu'est-ce que c'était ? C'était, bon, je reconnais un roi qui nous représente à tous, de droit divin, mais au sein de ma région, en tant que comte de Toulouse ou autre, je garde du pouvoir et de la marge de manœuvre sur mes sujets immédiats. Je suis le relais, je suis le vassal, je suis le relais du roi de France auprès de telle région et de tel coin de France. Et ça, je trouve ça très très beau parce que c'est une France qui reste la France, hein, c'est-à-dire que tous fidèles au roi de France. Et en même temps, on a quand même l'identité régionale qui reste... l'identité régionale qui est l'identité intime, en fait. Hein. Et c'est quelque chose qui revient toujours, toujours. On a beau essayer de le lisser. Bon, là, le travail a quand même bien été fait, hein, parce qu'entre la punition qui a été faite de parler les langues régionales et la volonté de submerger, des fois, migratoirement parlant, ces régions... font que effectivement beaucoup de régions ont perdu leur identité, mais jamais complètement. Voilà, c'est quelque chose qui reste toujours là parce que l'église du coin, elle a tel saint qui est rattaché à telle histoire locale, tel château est rattaché à tel seigneur. Voilà, vous allez en Normandie, vous avez cette identité normande qui vraiment moi j'ai été étonné, j'en parle souvent de la Normandie parce que j'y étais très récemment et c'est vrai que c'est quelque chose qui est là. Vous voyez le passé de la Normandie à portée de main, quoi. Tous ces châteaux, le château de Guillaume le Conquérant, le château de Falaise, le château d'If, tous ces coins-là vous rappellent à quel point l'histoire de France a été vraiment absolument merveilleuse, riche et variée, vous voyez. Et quand je rentre dans le sud-ouest, et bien, tout d'un coup, c'est une autre histoire, celle des Visigoths, celle des comtes de Toulouse. Et si vous voulez, ça vous fait prendre la mesure d'à quel point la France est toujours plus riche quand elle met en avant l'histoire de ces régions. Bon, et il se trouve que les monarques ont décidé en fait de rompre un petit peu déjà avec ça et de convoquer la noblesse locale à Versailles. Voilà. Alors les nobles ont arrêté de mourir à la guerre, ce sont devenus des petites merdes et des héritiers. Puisqu'avant, si vous voulez, pourquoi est-ce que les gens ne se fâchaient pas contre ceux qui naissaient et qui héritaient juste par leur naissance, parce que avec les droits et les biens et les richesses qu'ils obtenaient, venaient un certain nombre de devoirs. Ces devoirs, c'était de protéger la seigneurie ou le domaine duquel ils héritaient à la guerre. C'est-à-dire que quand vous étiez, par exemple, paysan, artisan, ce que vous voulez, vous n'aviez pas, ou même clair, hein, quand vous apparteniez à la religion, quand vous étiez dans les ordres, à la religion catholique, quand vous étiez dans les ordres, vous n'aviez pas le devoir de partir à la guerre pour aller faire la guerre. C'était le seigneur qui, certes, héritait. C'est pour ça que pour moi, c'est un modèle parfait, c'est un modèle qui a duré aussi longtemps, il faut vraiment se poser des bonnes questions. C'est parce qu'en fait, l'inégalité, elle est toute relative. Certes, le petit seigneur va hériter des richesses de son père, mais il va hériter des responsabilités qui vont avec. Et si vous voulez, la noblesse était respectée à l'époque parce que les enfants de la noblesse allaient faire la guerre, allaient mourir à la guerre pour défendre le domaine de leur père. C'était très très coûteux d'entretenir un château fort, c'était extrêmement coûteux d'entretenir une armée médiévale, parce qu'on imagine des milliers d'hommes et tout, le château de Foix qui est un château conséquent, il n'y avait pas plus d'une dizaine d'hommes d'armes pour le garder, quoi. C'est incroyable quand on y pense. C'était vraiment c'était un château qui était gardé par une dizaine d'hommes, un peu plus d'une dizaine d'hommes. Gaston Phébus faisait garder le château de Foix par une dizaine d'hommes. C'est alors qu'on imagine 150 mecs, mais ça coûtait très très cher à entretenir. Donc si vous voulez, avec les rétributions de la charge de seigneur, venaient aussi les devoirs qui étaient des devoirs extrêmement lourds. voilà, il était possible que le roi ou le pape vous appelle à la guerre, vous appelle à la croisade. Alors le pape pouvait pas vous appeler à la guerre, il pouvait vous appeler à la croisade, il pouvait pas vous forcer à y aller. Mais bon, enfin, c'était un peu la honte si dans votre famille personne n'était parti faire la croisade pour récupérer le tombeau du Christ. Hein. Il y avait aussi la question du prestige au-delà du devoir. Par contre, le seigneur, le roi de France, pouvait vous dire bon, là, je suis en guerre contre un tel, viens faire la guerre avec moi, viens aider mes vassaux à tel endroit, et vous partiez tout d'un coup. Pour une destination extrêmement lointaine pour aller faire la guerre pour votre roi. Voilà. Donc, si vous voulez, des fois, eh ben, c'était mieux d'être paysan. Au Moyen-Âge, hein, c'est prouvé aujourd'hui. Hein, au Moyen-Âge, le niveau de vie du paysan n'a jamais été aussi haut qu'à ce moment-là. Voilà. Un paysan du Moyen-Âge a plus de jours de vacances qu'un paysan aujourd'hui, bien plus, puisque tous les jours religieux, toutes les fêtes religieuses sont chômées. Et évidemment, il y avait une plus grande richesse quand on rapporte hein, avec les comment ça s'appelle les quand on fait du comment on appelle ça du de la proportion pas du relatif je sais plus mais en tout cas ils sont à cette période-là les paysans sont mieux ils sont considérés comme étant plus riches et plus prospères que maintenant proportionnellement voilà ça proportionnellement donc voilà et il se trouve que les derniers jours du royalisme quand il s'est transformé en monarchie ont signé la fin cette transformation du royalisme a signé la fin du royalisme parce qu'il est devenu un appareil dégénéré, car désincarné localement, car éloigné du local. Et le local, c'est la clé. Et si vous voulez, la République actuellement est extrêmement, elle est en très grande difficulté. Alors, elle a plus d'outils de contrôle que les monarques ou que les premiers États républicains parce que il y a plus de technologies, mais elle est en tout aussi mauvaise posture localement puisque il y a une défiance aujourd'hui vis-à-vis de l'appareil central qui est incommensurable. Et c'est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'on arrive au bout, de la République. Alors, est-ce qu'elle va s'effondrer dans 5, 10, 20, 30, 50, 100 ans? On ne sait pas. Mais c'est un système qui est à bout de souffle, qui est déjà à bout de souffle, en fait, parce qu'il écrase. Il a expliqué qu'on allait tuer le roi pour payer moins d'impôts et avoir plus de liberté. Résultat, on a plein de petits rois qui sont tous ces maires, tous ces préfets, tous ces juges rouges francs-maçons. Et on a toujours plus d'impôts. On a même, on a un record de l'impôt, puisque au maximum de l'impôt, sous le royalisme, on était à 13%. On était à 13% des sommes gagnées. C'était l'impôt maximal qu'il y a eu au Moyen-Âge. Et d'ailleurs, il y avait de grandes révoltes. Aujourd'hui, imaginez, on est à presque 75% d'impôt entre tous les prélèvements, les taxes que vous payez. On est à presque 75% d'impôt. C'est absolument stratosphérique. Donc, si vous voulez, on arrive au bout. Voilà, on arrive au bout. Ça va prendre du temps, mais on arrive au bout. Et donc, excusez-moi, je raccroche les wagons avec Jean-Michel Apathy l'autre jour. Donc, je vois un extrait qui expliquait il faudrait raser Versailles. Il faudrait raser. Mais si vous voulez, le communisme est une maladie mentale, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis pas monarchiste, mais je suis allé visiter Versailles. Mais c'est une splendeur absolue. C'est bien plus beau et bien plus riche et bien plus significatif de notre puissance que la Tour Eiffel. D'accord ? Versailles, c'est des millions et des millions de petits artisans comme ça qui venaient avec leur équerre et leur compas. Eh oui, déjà. venir faire les dorures, les moulures, les tapisseries, le parquet, la salle des glaces. Il n'y avait pas de moulage industriel à l'époque. Tout était en fait une création unique. Donc le moindre petit lustre de Versailles, la moindre petite corniche, la moindre petite marqueterie qui a été faite de manière unique par un artisan qui a mis toute sa passion, toute sa connaissance et toute son âme. Parce qu'à l'époque, en plus, les meubles que vous faisiez, les objets que vous faisiez, les bâtiments que vous faisiez, vous les signiez. Il y avait une signature. On voulait montrer aux générations futures que chez Boulle, on sait faire de très très beaux meubles, que tel horloger faisait de très très belles horloges. Donc en fait, il y avait un nivellement par le haut et il y avait une volonté d'absolument marquer son époque, de laisser quelque chose de viable, de beau et de durable dans le temps et qui inspire les générations futures à faire quelque chose d'aussi beau. Voilà. C'était ça en fait, l'esprit qui a fait que la France est devenue une putain de surpuissance. Et un exemple dans tous les domaines, dans absolument tous les domaines, parce qu'il y avait une espèce de, de surenchère dans la recherche de la beauté qui a fait que notre civilisation a cette particularité qu'elle a mis le bon goût au sommet. Voilà. Alors, il y a d'autres civilisations qui ont été capables de produire de très 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 jolies choses, hein, évidemment, et même des civilisations qui sont extra-européennes, hein, c'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, nous avons la latinité, nous avons le côté celte, nous avons le côté germanique, nous avons les influences italiennes, nous sommes à la croisée de beaucoup de civilisations qui font que nous avons une maestria et un art particulier qui fait qu'on a fait de très 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 jolies choses. Voilà. Alors, il y a des civilisations qui ont existé avant la civilisation française. Vous écoutez les afrocentristes, ils vous rappellent régulièrement que les pyramides existaient. On était encore pratiquement, hein, c'est une image, mais on sortait pratiquement des cavernes en Europe. C'est pas exactement vrai, mais c'est pas non plus exactement faux. Voilà. Après, le truc, c'est qu'il y a la question du maintien, il y a la question de bon, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2025? Et si vous voulez, le Soudan est un shithole. Oui, à l'époque des pharaons, il y avait de l'électricité en haut des pyramides. Bon, merci Maître Gims. Mais aujourd'hui, c'est un shithole. La France est sur ce chemin-là. La France est en pleine dégringolade. Et il faut absolument prendre conscience que les empires sont fragiles et qu'ils peuvent s'écraser comme de sombres merdes. Donc, il faut faire très, très, très attention. Les civilisations ne sont pas immortelles, les amis. Donc, nous avons produit le peuple français. Vos ancêtres, pas les miens, mais vos ancêtres, dont j'ai fait mes ancêtres, hein, en aimant la France. Comment est-ce qu'on fait de ces ancêtres, des ancêtres qui ne sont pas nos ancêtres de sang, tout simplement en prenant soin de leur héritage? Voilà, c'est aussi simple que ça. La formule, pour ceux qui ne sont pas français de lignage, comme c'est le cas pour moi, pour devenir français, la formule est extrêmement simple. Vivez à la française, mettez-vous à aimer ce pays plus que tout, et surtout, surtout, par-dessus tout, prenez soin de l'héritage qu'ont laissé les ancêtres des Français. Vous êtes tout à fait légitime et apte à prendre soin de ce qui a été laissé par les ancêtres des Français, même si vous n'êtes pas français. Voilà. Moi, il faudra me passer dessus pour détruire l'église Saint-Cernin. Pourtant, ce ne sont pas mes ancêtres qui l'ont fabriqué. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on devient français. Si vous voulez, l'équation n'est pas compliquée. Aimez la France, vivez à la française, défendez l'héritage français, et vous serez français. Alors évidemment, il y aura toujours un type pour vous dire que vous n'êtes pas légitime. Peu importe, vous le faites pas pour vos contemporains, vous le faites pour les morts. Voilà. La France, il y a plus de Français morts que de Français vivants depuis le temps que la France existe. On est d'accord. Donc ceux à qui vous devez fidélité, c'est les Français qui sont morts. Les Français qui sont vivants, vous leur devez fidélité aussi. Mais ceux à qui vous devez fidélité absolue, ce sont les Français qui sont morts. D'accord? Et ceux-là, je pense qu'ils seraient contents que quelqu'un défende ce qu'ils ont laissé, même si ce quelqu'un n'est pas d'ascendance française. Ça, je le dis pour ceux qui m'écoutent qui ne sont pas d'ascendance française, n'ayez pas de complexe à aimer la France. C'est un projet qui mérite d'être défendu. Voilà. Et on peut y adhérer sans en être lié par le sang. Ce qui est le cas pour moi. Je suis pas lié de manière génétique par la France. J'y suis lié de manière profondément affective et par mon âme, parce que c'est un pays que je respecte et que j'admire absolument. Mais c'est mon pays. Voilà, je vis en Espagne aujourd'hui et la France restera pour toujours mon pays, même si le régime qui l'occupe actuellement ne veut pas que j'y habite. ça reste mon pays pour toujours. Voilà. Et notre devoir en tant que Français, c'est de maintenir et de protéger cet héritage magnifique que nous ont laissé les Français d'avant, qui sont beaucoup plus nombreux que les Français vivants. Hein. Ça, c'est très, très important. Donc, il y a 70 millions de Français, hein, 67 millions, 68 millions, je ne sais jamais le chiffre. Les Français qui sont morts depuis le début de l'existence de la France, à partir du baptême de Clovis, on ne les compte plus. Voilà. Donc, c'est à eux que vous devez fidélité. Bref, donc voilà. Donc, moi, en tant que descendant d'extra-français, d'accord, je ne veux pas qu'on détruise Versailles. Et vous avez Jean-Michel Apathy, donc 100% français, méridional, narbonnoïde de son état, mais 100% français, qui lui veut raser la France. Non, raser Versailles. Mais si on peut raser la France, je prends aussi. Mais putain, mais... Au secours! Au secours! Au secours, quand. Mais on est dans le seul pays du monde où on arrive à fabriquer des Mongoliens pareils qui puissent lâcher des trucs pareils. Il faut raser Versailles! Mais est-ce que t'y allais, Jean-Michel Apathy, à Versailles? Est-ce que t'y allais? Est-ce que tu t'es baladé dans les jardins magnifiques? Est-ce que tu as vu les voûtes, les bâtiments, les structures, les moulures, les meubles boules qui ont été arrachés par les républicains dans ton genre pour être vendus, là, en toute discrétion, hein, le mobilier national, Hein, hop, il est sur le bon coin, mais attendez, je comprends pas. Il devait appartenir à la nation, et c'est que des ministres francs-maçons qui posent leur cul dessus. Et après, discrètement, quand, au gré d'un déménagement ou d'une réfection de peinture, on met les chaises de côté. Oh, il en manque une. Et elle se retrouve sur eBay. Parce qu'il y a un enculé de politicien républicain qui l'a mis en vente sur eBay. Pour son propre compte. Et ben alors, la République, qu'est-ce qui se passe? On devient encore plus pourri et corrompu que les monarques. Et pourtant, on a bâti notre modèle sur ça. C'est ça qu'on nous a vendu. Hein? Et aujourd'hui, au lieu d'avoir un roi, certes, pas top, qui fait venir les nobles et qui les corrompt à Versailles, on a une armée d'enculés de républicains qui veulent détruire ce pays. Mais ils le disent! Ils le disent à la télé, con! Et en temps de guerre, qui c'est qui veut détruire ton pays? C'est l'ennemi! C'est l'ennemi! Les gens qui ont tiré sur la cathédrale de Soissons et qui l'ont fendue en deux, c'est les Allemands. Et les Allemands, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur tire dessus en temps de guerre, malheureusement. Ah, parce que ce sont nos cousins. Hein. Les guerres entre Européens sont des guerres stupides. Sauf quand elles sont faites par des professionnels, comme ça a toujours été le cas. Mais quand c'est les peuples européens qui s'affrontent, c'est de la merde. C'est pour ça que je suis contre la guerre en Ukraine. Que des Russes tirent sur des Ukrainiens et que des Ukrainiens tirent sur des Russes, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la maladie mentale, c'est que vous avez des types qui ont le même projet que les Allemands, qui ne faisaient pas exprès quand ils bombardaient une ville, ils essayaient de choper. Bon, ils ne faisaient pas exprès, ça dépendait des cas quand même. Hein. Parce que quand c'était Hans avec son poignard des jeunesses hitlériennes qui vise, si tu veux, bon, les Français, faut qu'ils meurent, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que très souvent, les dommages qui étaient faits aux bâtiments historiques, c'était des dommages collatéraux. Les Allemands n'ont pas cherché à pilonner spécifiquement les cathédrales françaises. D'accord? Ils ont bombardé des villes, ils n'ont pas pété les cathédrales, ils n'ont pas fait en sorte de péter les cathédrales. Après, tu as eu des éclats qui ont balayé des cathédrales. Une cathédrale à Soissons qui a été coupée en deux, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas la norme. C'était pas la norme. Donc même les putains de Schleu, avec leurs putains de poignards nazis qui envoyaient des gitans, des handicapés et des juifs à Auschwitz, tu veux, même ceux-là, quand ils ont fait gaffe de pas péter le mobilier national. Et il y a des fils de pute de francs-maçons infernaux qui déboulent et ils veulent raser Versailles. Je voudrais raser Versailles, mais réveillez Pinochet! Est-ce qu'il y a un vampire qui peut aller mordre les couilles du cadavre de Pinochet pour qu'il revienne à la vie, con ? Faites démarrer les hélicoptères ! Faites monter tous ces putains de communistes dans des hélicoptères ! Des SA-330 Puma ! On décolle et on les balance par-dessus bord ! On leur fait une Pinochet, con ! Je vois pas comment on peut guérir ces malades mentaux ! Comment tu fais pour pas aimer la France, fils de pute ? Comment c'est possible d'être aussi malade pour pas aimer la France? Que tu sois un zozo des anciennes colonies barbaresques qui entretient de la haine pour la France, je peux le comprendre, parce qu'il y a eu de la torture un peu sale, où on te met des câbles électriques autour des couilles. Mais quand t'es un descendant de Français, comment tu peux cracher sur ton héritage? Vous êtes infernaux! Et vous comprenez pas pourquoi ça finit par faire péter des centrales nucléaires à Pripyat, quand? Parce que pour mettre fin au communisme, à la fin, on est obligé de vous faire péter les centrales. Les services secrets américains sont obligés de faire péter les centrales. Parce que vous vous arrêtez pas de vous-même. C'est ça le problème avec ces putains de communistes congénitaux. Pour vous arrêter, faut vous foutre des centrales qui pètent. Faut donner des missiles Stinger aux Afghans, con. Il faut que vous preniez des famines dans la gueule pour que vous arrêtiez, con. Qu'est-ce qu'on fait avec vous? On peut pas s'asseoir autour d'une table entre gentlemen et vous dire arrêtez avec le communisme. Vous n'y arrivez pas. Ça ne vous plaît pas. Vous êtes des poulets sans tête. C'est pour ça qu'on est obligé de faire des trucs extrêmement déter à la fin, con. T'as pas envie de te salir les mains et d'aller aussi loin, mais le problème, c'est qu'à la fin, la seule solution, c'est Franco! Ou Pinochet! Ou Nayib Bukele, con. C'est de vous attraper, de vous coller au mur et de vous tirer dessus avec des carabineurs K98. Y'a que comme ça qu'on vous arrête! Putain, vous êtes des malades mentaux! Mais qui veut raser Versailles à part des enculés de communistes de merde? Y'a qui est assez con pour vouloir ça, putain? Mais merde, même les djihadistes, ils ont le bon goût d'aller se faire péter dans des rédactions et pas dans des églises, bordel. Alors oui, ils essayent, mais c'est pas la norme. Encore une fois, c'est comme les nazis, quand, si tu veux. C'est comme les nazis, quand même, tu vois. Putain, ils ont la décence d'aller poignarder des bébés plutôt que d'aller faire péter Versailles. Non, celle-là, je la retire, je rigole. Putain de communiste. Et après, vous êtes là, oui, Pinochet a jeté des étudiants communistes par-dessus bord, mais heureusement! Sinon, le Chili serait le même trou à merde que la Corée, putain! Quand on vous arrête pas, ça devient de la merde. Tout le monde vous déteste dans les pays de l'Est parce que eux, ils ont pas réussi à s'en dépêtrer. Les Polonais, les Serbes et tout ça, ils en ont pris du communisme. Ils vous gerbent. Ils vous gerbent. Et le problème de la France, c'est qu'heureusement, il y a eu des héros qui vous ont jamais complètement laissé faire. Donc on vit dans un demi-shitole. Et pas dans un shitole complet. Mais si vous étiez arrivé à vos fins après mai 68, mais dans quoi on vivrait? Dans quoi on vivrait? Bordel! Et je réitère l'appel, est-ce qu'il y a un vampire qui peut mordre les couilles de Pinochet, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut prendre le cadavre de Franco et en faire un cyborg pour nettoyer ce pays de merde? Putain de merde, raser Versailles! Mais moi, tu dis une phrase comme ça, je te colle au mur! Je te colle au mur, sans procès! Qu'est-ce que c'est que cette haute trahison, putain? Même les nazis, bordel, les nazis, ils faisaient des trucs d'enculés! Il faisait des ghettos pour enfermer les feuges et il les faisait faisander, con. Il les faisait confire à Varsovie. Même ceux-là, ils n'ont pas voulu raser Versailles, putain de fils de pute. Enculés, il y a des enculés et qui sont 100% lignées françaises qui viennent te dire qu'il faut raser Versailles. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, con? Qu'est-ce qu'on fait? Ça te fait relativiser les vols de SA-330 Puma, con. Parce qu'il savait, Pinochet, il savait, il avait vu les ravages du communisme. Donc, si tu veux, le mec a pas hésité, il a acheté 220 millions d'hélicos, il a fait monter tous les fils de pute qu'il a pu dedans, il les a balancés par-dessus bord sur la cordillère des Andes! Pour voir si ça fait un condor, un chilien communiste qu'on jette par-dessus bord! Réponse non! Il déploie pas ses ailes, il s'explose en contrebas! Et c'est fini, c'est ça le problème avec le communisme, c'est qu'on n'arrive pas à vous raisonner! C'est comme une maladie mentale, une peste! Qu'est-ce qu'on fait avec la peste noire? On brûle les mecs! Pour pas que des rats y grignotent leurs cadavres et refilent la maladie à d'autres types. Et c'est ça qui se passe avec vous, con. C'est ça. C'est exactement ça qui se passe avec vous. C'est une maladie qui se donne, et souvent de père en fils, con, putain. Moi, j'ai guéri. Vous pouvez guérir aussi, con. On va quand même pas être obligé d'en revenir à ce qui se faisait sous Pinochet ou sous... comment il s'appelle, l'autre? Qui a filé des missiles aux Afghans, con. Il vous a foutu les talibans sur la gueule pour que vous compreniez. Il a fallu faire péter une centrale nucléaire en Ukraine pour que vous arrêtiez, con. Putain, votre redistribution de merde. Où il y a un tiers de mecs qui bossent et il faut redistribuer à deux tiers qui branlent rien parce que l'humanité, ça a toujours été ça. Un tiers de mecs valables, deux tiers de merde. Et le deux tiers de merde, eh ben, dans les systèmes d'avant, on leur donnait pas un RSA. C'est un truc de communiste, ça. Avant, on laissait la nature faire. T'aimes pas aller chasser, t'aimes pas travailler, crève! Ou perds du poids. Et si tu perds du poids, ben les mecs qui aiment chasser, ils sont pleins de protéines, ils rentrent, ils te mettent une claque, ils baissent ta femme. Du coup, ils font des gosses viables. Et c'était comme ça que ça marchait, mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, les mecs viables, ils dépriment parce que tout s'effondre et que c'est la loi des fils de pute. Comme il y a deux tiers, parce qu'avec la démocratie, c'est ça qui se passe. Avec la démocratie, c'est ça qui se passe. C'est qu'en fait, les merdes qui ont toujours constitué la majorité de l'humanité, ils sont plus jugulés par la force. Ils ont la parole. Et ça, c'est la principale catastrophe du 21e siècle. C'est que les plus gros fils de pute ont la parole. Ils ont la parole. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident des trucs qui les mettent bien eux. Et ils taxent les mecs qui produisent. Et ils enculent la vie des mecs qui ont du dynamisme en eux. Et de la testo. Ils les punissent d'être comme ça. Parce que dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été l'inverse. Bordel, c'était les forts qui gouvernaient. Parce qu'ils avaient des idées saines. Mais maintenant, c'est le règne des fils de pute et des fonctionnaires. Alors, j'ai rien contre les fonctionnaires qui bossent à l'hôtel, chez les pompiers. Attention, je fais la part des choses. Mais les putains, là, d'assistantes sociales de merde. Pour expliquer aux OQTF algériens comment dépenser leur prime de la rentrée, ça finit avec des écrans OLED. Pour regarder le foot, quoi. Est-ce que quelqu'un peut revenir et foutre un peu d'ordre, Franco, Pinochet, qui tu veux, quoi? Guillaume le Conquérant, Raymond VI de Toulouse, je sais pas. Guillaume Desbarres, Simon de Montfort, quoi. Simon de Montfort, là, sa politique, c'était de balancer des gens vivants dans les puits, quoi. Est-ce que tu crois que ça file les droits? Tout le monde le déteste dans le Sud-Ouest, parce que, bon, le Gonze, il est venu pour le roi de France préempter le Sud-Ouest, mais ça mouffetait pas, quoi, au moins. Au moins, ça mouffetait pas. Putain de merde. J'en peux plus de ce pays. C'est trop beau pour être communiste. C'est trop beau pour être détruit. Vous le comprenez pas, bordel. Il y a des Français de souche. Il y a des Français de souche qui me combattent parce que j'essaie de maintenir leur pays. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui vous a fait ça, bordel? Qui vous a mis cette maladie mentale dans la tête? Vous êtes né dans le jardin de Dieu et vous voulez en faire de la merde. Vous voulez faire une barre d'immeuble dessus avec des HLM. Je ne comprends pas cette obstination à vouloir rendre ce pays magnifique. Putain, c'est un don de Dieu. Et vous voulez en faire de la merde, absolument. Absolument. Putain, mais Louis Boyard, bordel, tu viens de la Vendée. La Vendée, c'est ce qu'il y a eu de plus fidèle au royalisme. C'est ce qu'il y a eu de plus fidèle à la France, putain. Les mecs, ils ont été obligés de les génocider pour imposer la République et donc le communisme qui va avec. Toi, t'es Vendéen, tu rejoins Mélenchon. Et tous ces enculés là de d'anti-français, tu viens rejoindre l'appareil le plus anti-français qui ait jamais existé en France. La dernière fois qu'il y avait des mecs aussi anti-français, c'était la Blitzkrieg ou la guerre de 100 ans. Et encore, les seigneurs anglais qui faisaient la guerre de 100 ans, pourquoi ils faisaient la guerre en France? Parce qu'ils voulaient quitter leur Angleterre de merde. Ils voulaient enfin savoir ce que ça fait de manger bien. Ils voulaient regarder des jolies gonzesses parce que les Françaises, quand elles prennent soin d'elles, elles sont magnifiques. D'accord? C'est parmi les plus belles femmes du monde. Ils voulaient vivre là, les Anglais. Tous les fils de pute qui ont essayé de nous envahir depuis la nuit des temps, ils viennent d'endroits qui sont dégueulasses. Les Allemands, ils mangent du chou-fleur avec de la saucisse. Ils arrivent en France, t'as des armagnacs de bâtards et les meufs, elles sentent bon. Bon, ben, ils veulent la France. Pareil pour les Anglais, con. Le roast beef à la menthe de fils de pute avec leur pluie dégueulasse. Les types, ils arrivent dans Dordogne, ils arrivent dans le Gers, ils se régalent, ces enculés. Putain, et vous, comme vous êtes né dedans, vous en rendez pas compte. Il y a que, je sais pas, il y a peut-être 5% des Français qui sont royalistes. Eux, ils ont compris. C'est des héros, ces mecs-là. Putain, et les autres, ils sont là, j'ai pas d'opinion politique. Moi, je suis centriste. Moi, je suis communiste. Collez-moi ça au mur. Collez-moi ça au mur. Bordel, si je deviens dictateur... Je fais des escadrons avec des masses 36, d'accord? Je leur file des masses 36 et je fais des semaines et des semaines et des semaines d'exécution publique pour nettoyer tout ce bordel! Un grand coup! Et qu'on se remette à un pays normal, qu'on se remette à être un pays normal, quand, putain! Je te fais le ménage et je nettoie bien dans les coins! Putain, entre les loges, les cocos! Tout le reste, là, tous les malades mentaux, là, putain. Les mecs qui s'habillent en Pikachu, là, parce qu'ils ont des problèmes de genre, j'en peux plus de tout ça! Quand il y avait l'Inquisition, ça marchait mieux! Les gens se retenaient, quand. Ils se retenaient d'être fous. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune retenue, quand. Il n'y a plus aucune retenue. Les gens, il y a tellement de confort qu'ils baignent dans la maladie mentale et dans le délire. Ils s'ennuient, ces fils de pute. Avant, fallait aller couper du bois. Fallait pas que ta femme se fasse violer par les Vikings ou les Arabes. Et aujourd'hui, quand, il y a tellement de sécurité que les mecs deviennent fous. Ils s'ennuient, quand. Alors moi, je suis communiste, mais je suis pas exactement, tu vois, je suis pas install. Moi, je suis plus dans le Trotsky. Ferme ta gueule, il y a des confitures dans le placard. Et il y a des flics avec des gros bras qui font en sorte que tu te fasses pas trucider. C'est pour ça que t'es plus trotskiste que stalinien, fils de pute. Fils de pute. Ça nous ferait du bien, une nouvelle invasion viking et des raids arabes à Narbonne. Est-ce que tu crois qu'ils votaient quoi, les mecs à Narbonne, quand il y avait des raids des barbaresques, quand, putain? Quand il y avait Mouloud et sa bande qui arrivaient en bateau là pour esclavagiser et violer toutes les gonzesses du secteur, est-ce que tu crois que les mecs, ils étaient centristes et ils votaient Mélenchon, les types? Non, ils étaient tous extrême droite. Ils étaient catholiques et ils étaient pour que le Seigneur envoie un escadron à cheval, là, t'sais, avec des gros frisons, là. Tu sais, qui font du gros bruit sur la plaine, là. Tu sais, la terre, elle tremble, là, tu vois, voilà. Là, on savait leur parler aux envahisseurs à l'époque. Bordel! Aujourd'hui, on les suce avec des assistantes sociales et on leur file du pognon pour qu'ils fassent des concerts. Putain de merde. Est-ce que tu crois qu'en l'an 1000, Médine, il fait un concert au Bataclan, con? Est-ce que quand le roi de France, c'était Louis VI le Gros, d'accord? Est-ce que le Havre de Paix, là, l'association des frères musulmans, là, est-ce que tu penses qu'ils ont une marge de manœuvre politique, con? Sous Louis VI le Gros, est-ce que tu crois qu'à l'époque de Saint-Louis, d'accord? Est-ce que tu crois qu'à l'époque de Saint-Louis, tu as, Jacques Attali qui vient l'expliquer que son royaume, c'est un hôtel? Mais imaginez la scène! Imaginez la scène, Louis VI le Gros qui s'est enquillé 5000 calories, là. T'as Jacques Ali qui débarque avec son petit chapeau jaune, parce qu'au Moyen-Âge, on leur mettait les chapeaux jaunes aux Juifs pour les repérer. il déboule comme ça chez Louis VI le Gros. Alors, votre pays est un hôtel. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais il envoie même pas un garde le gifler. Il se lève avec ses 100 plaques, il en retourne une. Il lui met une claque dans la tempe. L'autre, il est par terre, il convulse. Il convulse. Et pendant qu'il convulse, t'as le roi qui lui dit convulse, fils de pute, tu vois. Et le mec, il a des spasmes, tu vois. Il prend une claque dans la tempe. À l'époque, c'était comme ça. D'accord? C'était soit tu reçois l'hostie, la communion, soit tu prends une claque dans la tempe. Et encore, la claque dans la tempe, c'est amical. Normalement, c'est un coup de hallebarde dans le cervelet, quoi. Est-ce que tu crois qu'elle se faisait respecter la grosse France à l'époque? Putain de merde. La dernière fois que les Français, ils sont venus dans la région, là, où j'habite, d'accord? C'était avec Napoléon, ça a été... Ils étaient redoutables. Ça a été un massacre. Goya, il en a fait des croquis, quoi. Les Français, avant, ils se faisaient respecter, bordel. Aujourd'hui, c'est devenu quoi? C'est devenu Louis Boyard et l'autre, là, Delormeau, quoi. Et Gilles Verdez. Non, il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a encore des Français solides, mais il n'y en a pas assez. Si on était une usine, je doublerais les commandes, je triplerais les commandes, quoi. Putain, moins de Louis Boyard, plus de Aurélien Lejeune. Fait chier, quoi. Je comprends pas quand, putain, et tout le monde collabore. Même les mecs que tu estimes être solides, ils finissent par collaborer quand ces enculés. Mais c'est infernal. Je vais pas donner de nom, mais vous savez à qui je pense. Quand même les mecs les plus solides, ils finissent par collaborer. Mais c'est infernal. Est-ce qu'on peut arrêter, là? Putain, de se dévaluer, quand de donner des signaux de faiblesse, de sucer les mecs qui nous en veulent et de leur donner raison de nous en vouloir. Et les aider à nous détruire, mais c'est infernal, quand. C'est infernal. Moi, je n'ai qu'un message à dire à la France. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'était rigolo, ça. Putain de merde. Non, mais je suis hors de moi. Je pense, là, aux États-Unis, ils sont en train de faire le ménage. Au Salvador, ils ont fait le ménage. Le Salvador, c'était le pays avec le plus d'insécurité au monde. Il était dans le top 3 des pays avec le plus d'insécurité, avec la Somalie et l'Afghanistan. Il est désormais dans le top 3 des pays les plus sûrs du monde. C'est plus sûr, le Salvador, que la Suisse. Mais les recettes, on les connaît. Il faut des mecs en treillis qui font des trucs d'éther. Il faut prendre des décisions qui vont pas avec le Conseil constitutionnel des droits de l'homme de mon cul. Les droits de l'homme de mon cul. Quand on a pris Jérusalem, est-ce que les droits de l'homme, ils ont été respectés? Chaque fois que la France a fait des trucs stylés, les droits de l'homme, on les a mis de côté. D'accord? Quand on a pris Jérusalem, là, 1 contre 16, est-ce que tu crois que la Convention de Genève, on se l'est passé par le cul, quand? Vous me faites chier avec votre humanisme de gauche de merde. Relativiste de merde. Putain, c'est infernal, quand. C'est infernal, quand. Il faut aimer la France, plus que tout, faut, même si vous êtes un extra-européen, même si on vous dit, gna, gna, toi t'es un noir, toi t'es je sais pas quoi, toi t'as pas le droit d'aimer la France, t'es un arabe. Aimez la France par-dessus tout. C'est un projet qui dépasse tous les collabos de gauche ou les racialistes. La France est un projet qui dépasse tout ça. C'est beaucoup trop beau pour qu'on le laisse en désuétude. France battre jusqu'au bout, d'accord? Parce que vous consommez... Parce que vous dites, parce que vous assumez par votre discours au sein de vos familles, parce que vous faites baptiser vos enfants... Là, c'est merveilleux. Le carême a un succès monumental. Il y a un retour du catholicisme. Vous savez, récemment, il y a peut-être de ça 1 an et demi ou 2 ans, vous aviez, comment il s'appelait l'autre, là, le philosophe, là, le philosophe de soi-disant de droite, mais qui est de gauche, en fait. Là, putain, comment il s'appelle? Le boomer, là, il est infernal. Bon, je me rappelle plus de son blase qui a dit, oui... l'islam va jouer un grand rôle car le catholicisme a disparu en Occident, c'est fini, le catholicisme ne convainc plus personne. Fils de pute, record des conversions d'adultes en France, record de fréquentation des pèlerinages, et notamment celui de Chartres, mais pas que. Vous avez l'association SOS Calvaire qui est en train de sauver tous les calvaires de France qui étaient laissés à l'abandon par la République. D'accord? Vous avez un nombre de catéchumènes qui a explosé. Vous avez un nombre de conversions interreligieuses des musulmans qui deviennent chrétiens. Affolant. Vous avez un record de la fréquentation de la messe, des cendres avant le carême de cette année. D'accord? Le catholicisme et la chrétienté a fortiori revient. Elle revient. N'en déplaise à notre ami. Je sais plus comment il s'appelle cet enculé là, putain. Attendez, je vais essayer de retrouver son nom parce que ça m'énerve. C'est le philosophe, là, c'est un boomer. Il était à gauche toute sa vie. Et là, tout d'un coup, soi-disant, il est de droite. Pour nous expliquer que le catholicisme, c'est fini. Attendez, je suis en train de chercher son nom. Michel Onfray, putain, en plus, il est normand, il vit à Caen. Comment un normand peut s'exprimer contre le catholicisme en France ? Je ne comprends pas ce niveau de trahison. Mais tu sais ce que c'est, Michel Onfray, les normands cathos, en fait ? Est-ce que tu sais ce que c'est ? Avant que Le Havre soit la ville de Médine, tu vois, et de je sais pas qui, de Yacine Bellatar, de je sais pas qui là, la Normandie, c'était. Tu sais que la première croisade, Michel Onfray, je vais t'expliquer un truc. Première croisade, d'accord ? Évêque de Clermont, hein, 1094, 1096, 1099, prise de Jérusalem, d'accord ? Il appelle, il dit il y en a marre, nos pèlerins se font attaquer quand ils vont voir le tombeau du Christ. Il faut que des mecs solides montent sur des chevaux normands, sur des putains de. Comment ils s'appellent là, vos chevaux normands là ? Des percherons là. Des frisons et des percherons pour aller éclater les babouches qui harcèlent les chrétiens qui vont voir le tombeau du Christ à Jérusalem, bordel. Putain, on a déboulé avec une équipe de Picards, de Normands, d'Occitans. On a fait le ménage. On a déboulé à 1 contre 16, on a fait le ménage. On a pris le tombeau du Christ par la croix, par la foi en Christ. D'accord ? C'était ça les Normands. À 1 contre 16. Ça, c'était la France en 1099, quand les Normands s'étaient ancrés des bohémons, en fait. D'accord ? Des gonzes qui croyaient en Dieu et aux forces du mal. Pour citer l'intro des visiteurs qui me tient à cœur. Comment tu peux, Michel Onfray, en tant que Normand, affirmer que le catholicisme, c'est fini ? Mais putain, je t'aime bien, mais c'est pareil. Je vais être obligé de te coller au mur. Quand je serai au pouvoir, je vais être obligé de te coller au mur. Michel, ça, c'est de l'autre trahison. Dire que le catholicisme, c'est fini en France, alors que la France, c'est le catholicisme, c'est de l'autre trahison. Ça veut dire que la France est finie. T'es en train de nous expliquer que la France est finie. Est-ce que les mecs qui avaient les pieds dans la boue, dans les tranchées de Verdun, ils considéraient que la France était finie ? Alors qu'en face, t'as Hans et ces putains de canons qui sont 10 fois mieux que les nôtres et qui étaient en train de nous pilonner, bordel ! Il pleuvait, il y avait de la flotte bien à la tranchée, les mecs, ils ont tenu ! Toi, t'as le cul au chaud dans les bureaux de C8, là, ou de je sais pas où, là, ou de Sud Radio, ou de Frontières, hein, et tu nous expliques que la France, c'est fini ? Alors que les Français à Verdun et dans la Somme, ils ont tenu alors que c'était l'enfer sur Terre. Mais nous, on n'a pas le droit de lâcher, Michel, quand. On n'a pas le droit de lâcher. À Dien Bien Phu, ben évidemment que c'était l'apocalypse. Ils ont tenu. On n'est pas à Dien Bien Phu, on n'est pas dans les tranchées, donc on peut tenir. Donc tu vas me faire le plaisir de te tenir un peu. Et de faire gaffe à ce que tu racontes. Va falloir se reprendre, là, tout le monde, là. Va falloir se reprendre. Oui, c'est la fin de la France. J'y crois plus. Fermez vos gueules. Si les mecs, ils ont tenu face aux Schleu, putain, les para-allemands, la Blitzkrieg, qu'on a tenu. Il y a rien de pire que les para-allemands. Il y a rien de pire que ça, et on les a tenus, quoi. On les a tenus. Putain, si on peut tenir les para-allemands, c'est pas quand même 4 gauchistes et 5 babouches qui vont nous casser les couilles. Revenez à la raison. Et arrêtez de trahir, bordel. Le nombre de franco-français qui trahissent, c'est ahurissant. Je ne comprends pas, putain. Je suis même pas français de sang et j'ai mieux compris que vous à quel point c'est important de défendre tout ça. Il y a un problème, quoi. Ah. Bon. Fin de ce podcast. J'ai plus de voix. Si vous voulez vous procurer mes livres et productions, Magnus, les éditions Magnus sur Google, vous avez ma dernière BD, Dino Brutal Age, en collaboration avec Marceau. Si vous voulez vous régaler de l'épopée médiévale et de la Renaissance française, vous avez respectivement Crépuscule des Titans et Siècle Furieux, mes deux bouquins qui sont parus aux éditions Magnus. Vous pouvez également vous régaler de mes articles dans le trimestriel La Furia ou rejoindre mon Patreon pour des lives exclusifs mensuels. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Vive la France, à bas la République et vive surtout notre Seigneur Jésus-Christ. à qui on doit une fidélité absolue. Mais vous le savez, la France, c'est la fille aînée de l'Église. Donc, qui dit fidélité au catholicisme dit fidélité à la France. Amen, les amis. Je vous embrasse. Et bon courage pour la suite de ce carême. À très bientôt.